Y a-t-il?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui, 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 oui. Non. Oui, on...
Film de super-héros, film palestinien, et puis reprise, c'est Cinérama. Bonjour Manu, de quoi tu vas nous parler?
Bonjour Vincent, je vais vous parler du nouveau film de Clint Eastwood, 15h17 pour Paris, et d'une reprise, Roar.
Et bien le film sur Issou nous donnera l'occasion de jouer un blind test. On écoutera 5 extraits de la filmographie du réalisateur américain et il faudra bien évidemment trouver le titre chez vous. Moi je vous parlerai d'un film palestinien, Wajib, l'invitation au mariage, et puis bien du dernier film Marvel, Black Panther, film très attendu. Et puis Marine, eh bien elle a vu les nuances plus claires, elle nous en parlera. Et puis elle a aussi vu Le Retour du Héros, film avec Mélanie Laurent et Jean Dujardin, qu'on aura le plaisir d'écouter dans cette émission, puisque nous avons pu les rencontrer. C'est Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Le wajib est une tradition en Palestine. Lorsque quelqu'un se marie, eh bien les hommes de sa famille, généralement le père et les fils, eh bien doivent personnellement remettre en main propre à chaque invité les invitations au mariage. On n'envoie rien par courrier, email, ni même prépare une vidéo sur YouTube. Ce serait irrespectueux de distribuer en fait ces invitations par un biais ou par des étrangers. Voilà pourquoi dans Wajib, l'invitation au mariage, le film de la palestinienne Anne-Mary Jassir, on voit le père et le fils distribuer les fameux faire-part. Alors nous sommes à Nazareth, la plus grande ville palestinienne d'Israël. Le père, c'est Abou Shadi, 65 ans, divorcé, professeur d'université. À la retraite, le fils, c'est Shadi. Il est architecte à Rome depuis des années et n'est rentré au pays que pour aider son père à porter la bonne nouvelle du mariage de sa sœur. Alors, autant dire que ce sont de petites retrouvailles. La mère, quant à elle, eh bien, est absente. Ce sera un des grands hors-champs du film. Le ressort de ce film est simple. On peut parler d'un road movie mené dans une Volvo qui apparaît alors increvable. Un road movie qui laisse entrevoir les relations d'un fils et son père comme les douleurs d'un peuple palestinien aux prises avec son histoire, partagée entre renoncement, lutte et exil. Et tout cela, alors, sans pesanteur et même avec humour. Au gré de la distribution de faire-part et des rencontres, eh bien, la réalisatrice va dresser un portrait de Nazareth et de ses habitants, les fameux invités. Alors, ce n'est pas que les entrevues durent longtemps, mais elles permettent tout de même de saisir le climat d'une ville si singulière. Nazareth, à minorité arabe, compte des musulmans, mais aussi des chrétiens. Et il n'est donc pas étonnant de voir eh bien, une vieille dame qui a bâti une crèche géante, comptant bien remporter le premier prix. Mais finalement, au-delà du portrait d'une ville, la réalisatrice profite des moments entre chaque visite pour aborder des sujets qui tiraillent le père et le fils. Alors oui, bien sûr, le père aimerait que son fils se marie avec une fille du pays, fût-il occupé. Oui, bien sûr, le fils est très content de ne pas faire de compromis avec les Israéliens, hein, il vit en Italie. Et il refuse ainsi de porter un faire-part à celui qu'il considère comme un membre des services secrets, dont le métier était de contrôler l'enseignement des professeurs palestiniens. Alors oui, bien sûr, le père se doit d'expliquer à son fils que la lutte est plus noble, épuisante quand on reste à l'intérieur du pays. Et il ne manquera pas de critiquer le beau-père de son fils, un membre éminent de l'OLP tranquillement exilé à Rome. Alors chacun expose ses griefs, tente de justifier ses actes et son parcours, et la tension monte à mesure que les faire-part eh bien, sont distribués dans un crescendo qui n'attend aucune happy end, même si les deux hommes partagent une bonne cigarette. Alors jamais sentencieux, bien interprété par deux acteurs qui sont également alors père et fils dans la vie. Wajib, l'invitation au mariage, est un film doux avec une mise en scène alors suffisamment habile pour rester discrète face à son sujet et ses personnages. Le film ne nous apprendra sûrement rien de nouveau sur le conflit palestinien aujourd'hui, et ce n'est pas son objet hein, d'ailleurs, mais il lève le voile sur les rapports tendus que peuvent avoir certains Palestiniens partisans de la tradition et de la résistance, et puis des autres hein, qui ont fait le choix de quitter le pays. Et les questionnements eh bien, sont malheureusement toujours là une fois que le générique défile. Wajib, l'invitation au mariage, ça fait partie des petits films qu'on apprécie bien et qui sont sur les écrans depuis le 14 février. Un film qui, lui, était très attendu, est apparu sur les écrans le 7 février. C'est les 50 nuances de Grey. Plus clair.
Plus clair, ça, oui. Voilà.
Et c'est Marine qui s'y est collée puisqu'elle a vu les deux premiers opus.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
50 nuances plus claires de James Foley. Ça y est, oui, c'est fini, c'est terminé, la trilogie 50 nuances de Grey s'achève avec 50 nuances plus claires et heureusement, on a eu un peu peur quand même que les producteurs nous fassent un coup à la Twilight, qu'ils séparent le dernier volet en plusieurs parties, histoire de faire traîner l'histoire en longueur et de rameuter un maximum de spectateurs, ou pire, qu'ils nous sortent des spin-offs, mais non, apparemment... On croise les doigts, 50 nuances plus claires, sorti le 7 février, marque la fin de la trilogie la plus nulle qui nous ait été donnée de voir depuis longtemps.
Je fais la promesse de t'aimer fidèlement. Et de te protéger. T'as levé les yeux au ciel, je rêve pas.
Tu envisages des représailles.
Réalisé par James Foley, déjà aux commandes du deuxième opus, ce nouvel épisode s'ouvre avec le mariage d'Anastasia Steele et de Christian Grey. Une idylle toujours placée sous le signe de la domination du mal envers sa jeune épouse fascinée par ses blessures secrètes et par son compte en banque très rempli. Malheureusement, leur lune de miel, alors qu'il consiste en un tour de la France comprenant une visite de Paris désert et dépourvu de SDF et un tour à Nice dans une baie qui ressemble plutôt à celle de Pattaya, la lune de miel donc tourne court lorsque l'ancien patron de Anna revient leur jouer des tours, c'est-à-dire tenter de la kidnapper et d'incendier les bureaux de Christian Grey. Rassurez-vous, si vous êtes venu voir de l'amour, encore de l'amour et quelques scènes de BDSM très très soft, vous en aurez quand même pour votre argent car les uniques scènes d'action sont extrêmement succinctes, voire totalement expédiées. Pour revenir au plus vite à nos deux tourtereaux qui gloussent, se lancent des regards alanguis et se donnent de temps en temps quelques coups de cravache. Alors oui, Manu nous dira que James Foley était un bon cinéaste, il fut un temps... Bah, il a sans doute été remplacé par un sosie très très mauvais alors, hein, puisque comme dans les précédents, ce film-ci est un simple enchaînement de scènes clippées sur fond de musique pop insupportable, réutilisant jusqu'à la nausée tous les poncifs du romantisme. Aucun réalisme, on part du principe qu'il faut faire rêver les pucelles à tout prix et la romance entière est donc dépourvue de véracité, mais toujours mue par un message plus que douteux en revanche, hein, imposant une vision de l'amour capitaliste et montrant comme normal une histoire d'amour basée sur un rapport de force. Mais le plus grave, hein, c'est que ce n'est surtout même pas divertissant en fait, non, c'est profondément ennuyeux et répétitif. Côté casting, eh bien, c'est toujours le fond du panier de l'actoring avec deux comédiens en sous-régime permanent qui misent tout sur leurs œillades mouillées. Et on ne parle même pas des seconds rôles qui sont involontairement dramatiques ou comiques, on ne sait plus trop. Alors certes, Jamie Dolan, qui interprète Christian Grey, possède un nombre d'abdos saillants supérieur à celui de ses expressions faciales, mais ce n'est pas suffisant pour nous maintenir éveillés devant cette sucrerie insipide où même les vibromasseurs font partie des multiples placements de produits.
Oh! Oh, je suis maladroite. Oh,
c'est pas drôle.
Oh, ça coule, je m'en occupe.
Je vous laisse imaginer, évidemment, les images qui sont avec ce son. En fait, Marine n'a pas aimé ni le 1, ni le 2, ni le 3. C'est une trilogie donc ratée pour les membres de Cinérama. On va maintenant eh bien, écouter ce que tu as pensé du film de Clint Eastwood qui revient sur l'héroïsme après avoir eh bien, traité de l'héroïsme déjà dans son précédent film.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Alors, on ne reprochera pas à Clint Eastwood son recentrage vers un thème qu'il ne cesse d'aborder depuis quelques films. Raconter le destin d'Américains ordinaires devenus des héros. Alors après American Sniper et Sully, 15h17 pour Paris continue d'explorer cette voie en prenant un double risque. Le premier est de prendre pour interprètes principaux les vrais héros de l'histoire qui ont donc déjoué le 21 août 2015 un attentat à bord du Thalys à destination de Paris. Alors une idée séduisante sur le papier mais hélas désolante à l'écran. Les trois braves gars ont un charisme inversement proportionnel à leur acte de bravoure. Et surtout ils sont très très mauvais. N'insufflant à aucun moment la moindre émotion et densité enlevant et c'est un compte toute crédibilité à un projet voulant jouer finalement sur un principe, on va dire, de télé-réalité plus ou moins. Alors, le manque de lucidité d'Eastwood fait peine à voir, lui qui a été et est encore l'un des plus grands cinéastes américains, livrant régulièrement, notamment dans les années 90 et au début des années 2000, une série de chefs-d'œuvre avec Impitoyable, Un monde parfait, Minuit dans le jardin du bien et du mal ou encore Mystic River. Mais depuis quelques films, le cœur n'y est plus vraiment, ou plutôt, sans parler de gâtisme, son cinéma tourne en rond et devient simpliste, lui qui insufflait toujours avec brio beaucoup d'ambiguïté dans ses récits. Alors, le deuxième risque est de raconter l'histoire en amont, c'est-à-dire le quotidien banal de ces trois jeunes gens issus de la middle class américaine. Alors là encore, l'idée est casse-gueule de filmer le vide existentiel de personnages sans intérêt, attendant juste leur moment de gloire sans le savoir. Et là, c'est juste la catastrophe. Alors si le début fait illusion, lorsque Clint Eastwood filme alors toujours aussi bien l'enfance des personnages avec une vraie sensibilité et un savoir-faire intact, la suite est juste une niaiserie, d'une bêtise indigne de son talent. Alors lorsque les Lascars traversent l'Europe, on a droit à une série de visites touristiques d'une vacuité sidérante. Alors le pompon reste certainement le séjour en Italie. succession de cartes postales filmées caméra à l'épaule sur fond d'accordéon. Alors je pensais même à un moment que Stout s'était planté, qu'il pensait tourner en France. Mais non, hein, vu ce que les Français et surtout les Parisiens prennent dans la tête, impossible qu'il y ait la moindre confusion. Hein. Le détour aussi par Amsterdam est aussi croquignolé avec une scène de boîte de nuit absolument nullissime. Bref, Stout réalise, là je le pense...
Mais c'est peut-être ce qu'ils ont vécu, hein, vraiment.
Mais c'est vrai, mais c'est certainement ça. Mais je veux dire, on peut filmer le quotidien de gens, mais c'est pas pour ça que ça a un intérêt. Enfin, c'est, voilà. Vraiment, Stout réalise, on va dire, le plus mauvais film de sa carrière, et pas seulement à cause de l'inanité d'un scénario qui est vraiment lamentable. La mise en scène est aussi dans l'ensemble d'une platitude déconcertante. Hein. On se demande vraiment si Stout ne dormait pas pendant le tournage. Alors 15h11 ne développe alors aucune réflexion sur l'héroïsme, hein. On reste juste au constat édifiant, au service d'une idéologie quand même un peu belliqueuse et catho, à laquelle le cinéaste ne nous avait pas habitués jusqu'ici. Alors l'armée forme les hommes, les vrais, et il ne faut jamais oublier de prier avant de se coucher. Il y a quelques séquences de prières qui sont quand même un peu gênantes, surtout pour un public européen, je pense. Alors même si Stout a toujours été républicain, hein, son cinéma n'a jamais été vraiment réactionnaire et bondieusard, toujours traversé par des zones d'ombre. Alors, et progressiste à bien des égards, hein. Il était contre la peine de mort dans Jugé coupable, pro-avortement dans L'Échange, anti-raciste dans Bird. Alors ça, pour ne prendre que quelques exemples. Alors l'épilogue est clair au fond, hein. Stout veut adresser avant tout un message de paix et d'espoir à l'Amérique blanche. Je dis bien blanche car un détail du scénario reste douteux. Le cinéaste se désintéresse totalement du noir universitaire pour se focaliser sur les deux autres en fait. Et c'est quelque chose d'assez étrange. Bref, c'est vraiment un très très mauvais film et même limite douteux.
Eh bien, il en a fait d'autres qui sont plutôt réussis. On va s'en rendre compte avec ce blind test. On va vous proposer 5 extraits de la filmographie de Clint Eastwood. Et on commence avec un facile.
Tu oublies de respirer.
Je suis désolé, mais je respire.
Chaque fois que tu subis trop de pression, tu retiens ta respiration. Il faut respirer.
Ouais. Mais à part ça, je me débrouille pas trop mal. Hein ? Pour une fille, je veux dire.
J'entraîne pas les filles.
Ah, ça c'est facile, évidemment.
Bah oui, c'était Million Dollar Baby.
Plus de 3 millions d'entrées en France. Deuxième extrait.
Comme je disais, vous n'avez pas l'air d'un tueur de sang-froid plus terrible que l'enfer.
Je le suis peut-être pas.
Oui, ben oncle Pete a dit que vous étiez le plus dégueulasse de tous les salopards vivants et que si je voulais un partenaire pour tuer, vous étiez le pire. Ça voulait dire le meilleur. Compte tenu que vous êtes aussi froid qu'un glaçon et ne connaissez ni les états d'âme ni la peur.
Pete t'a dit ça.
Ah ouais, c'est ce qu'il a dit. Je suis un putain de tueur moi-même, sauf que j'ai pas tué autant de gars que vous, ça c'est à cause de mon jeune âge.
Et oui, parce qu'il en a tué.
Et oui, et donc c'est impitoyable ce qui reste pour moi. Le plus grand film de Clint Eastwood.
Film de 1992 et 793 000 entrées en France.
C'est un travail extrêmement physique. Je n'ai pas le temps d'entraîner quelqu'un et on ne peut pas le faire dans le temps qu'il nous reste. Alors, vous allez devoir y envoyer l'équipe d'Edalus. C'est à prendre ou à laisser.
Très bien, très bien. Toi, comme conseiller technique, pourquoi pas? Mais je n'équiperai pas une navette spatiale en centre de gériatrie. Tu es un assez bon professionnel pour savoir ça. De toute façon, la moitié de ces hommes sont sans doute morts.
L'aiguille tourne, Bob. Et je vieillis à chaque seconde.
Là aussi, c'était facile.
Espace et gériatrie, Space Cowboy.
Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, 962 000 entrées en France.
Salut, Walt.
Je suis pas un de vos amis, alors pourquoi vous vous évertuez à m'appeler Walt?
Désolé, Monsieur Kowalski.
Qu'est-ce que vous colportez aujourd'hui, padre?
Rien du tout. Je voulais prendre de vos nouvelles, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu à l'église.
Eh bien maintenant que vous avez fait votre bonne action, il ne vous reste plus qu'à continuer votre chemin.
Je voudrais qu'on discute, Monsieur Kowalski.
Dans une autre vie, mon petit.
Pourquoi? Vous avez un problème avec moi, Monsieur Kowalski?
Tentez pas le diable.
Allez-y, j'écoute.
Eh bien, je suis convaincu que vous n'êtes qu'un intello de 27 ans encore puceau qui adore tenir le crachoir à de vieilles bigotes superstitieuses en leur promettant l'éternité.
Il n'est pas facile.
Oui, d'ailleurs, on croirait un dialogue sorti de l'inspecteur Harry, mais c'est Grand Torino. Mmh.
Et grand succès pour Grand Torino, hein, quasiment 3 411 000 entrées en France. C'est, je pense, un des plus gros succès de Clint Eastwood, film de 2009. Et là encore, on va terminer avec un beau succès et à mon avis, facilement reconnaissable.
Si j'ai fait quoi que ce soit,
qui puisse te faire croire que ce qui vient de se passer entre nous n'a rien de nouveau pour moi. Il n'est qu'une habitude comme une autre. Alors je te fais mes excuses.
Qu'est-ce qui fait la différence, Robert ?
C'est simplement que quand je pense pourquoi je fais des photos, la seule raison qui me vient à l'idée, c'est que ça devait être pour faire mon chemin jusqu'ici.
Hey.
Eh ben, j'ai un trou.
Ah bon ? Ah là, c'est vraiment une déclaration d'amour. Hein. Ils se rencontrent.
Oui, mais c'est sur la route de Madison.
Oui.
Eh ben, oui, mais j'ai pas reconnu la voix d'Estoud.
Non, mais oui, parce que bah oui.
Estoud français, en fait. Ouais, voilà. Ouais.
Film de 95, un peu plus d'un million d'entrées en France, mais qui ensuite a marqué durablement l'esprit des spectateurs sur la route de Madison. Ainsi s'achève ce blind test spécial Clint Eastwood. On va maintenant passer à la rubrique interview de cette émission et on va quand même avoir, eh bien, entendre Mélanie Laurent et Jean Dujardin qui sont dans un film, Le Retour du Héros. C'est un film en costume, une comédie en costume, comme va le rappeler Jean Dujardin, qui visiblement cabotine un peu. Alors Marine nous parle avant tout du film et ensuite on les écoute.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Elisabeth est l'aînée d'une famille noble dont la cadette doit épouser le comte de Neuville. Or, celui-ci part à la guerre aussitôt sa demande en mariage effectuée, laissant sa fiancée désespérée. Pour éviter qu'elle ne se laisse dépérir, Elisabeth décide d'écrire de fausses lettres à la place du comte, persuadée que celui-ci est mort au combat. À travers ces lettres, elle en fait un héros qui vit toutes sortes d'aventures, créant l'admiration de sa famille. Mais lorsque Neuville revient alors que tous le pensaient mort, Elisabeth va être prise malgré elle dans un quiproquo sans fin, car le comte déchu compte bien profiter de la réputation qu'elle lui a bâtie. Alors cela faisait longtemps que le cinéma français ne s'était pas laissé tenter par un film en costume, une comédie qui plus est, dans laquelle le vaudeville embrasse une certaine modernité en abordant des thématiques très actuelles malgré le contexte du film qui se déroule sous l'ère napoléonienne. Alors la promo du Retour du Héros voudrait nous faire croire que ce film a été un projet difficile à monter, à vendre auprès des producteurs qui ne voulaient pas de film en costume. Soyons réalistes, hein. Jean Dujardin et Mélanie Laurent sur la même affiche, cela reste quand même l'association de stars françaises la plus bankable depuis un bon bout de temps. Et forcé de constater que leur duo marche à merveille. Mélanie Laurent notamment, qui tient là son premier grand rôle de comédie, est excellente et développe avec son partenaire une véritable alchimie sur la variation de l'amour et de la haine, qui n'est pas sans rappeler les comédies hollywoodiennes des années 40, dans lesquelles des duos antagonistes finissaient par s'aimer passionnément après s'être affrontés à coups de joutes verbales délectables. Ils sont entourés d'excellents comédiens comme Noémie Merlant, que l'on avait découverte dans Le Ciel attendra, et la belle énergie qui se dégage de l'ensemble donne au film des allures de théâtre filmé où les dialogues fusent sans répit. Le souci, c'est que comme dans le précédent film de Laurent Tirard, Un homme à la hauteur, dans lequel Virginie Efira tombait amoureuse d'un homme de petite taille, mais qui heureusement était très riche, les belles intentions du réalisateur tombent assez vite à l'eau, laissant de temps à autre ressurgir une misogynie latente dont on se serait bien passé. Par exemple, l'un des personnages féminins, un peu hystérique évidemment, tombe enfin amoureuse de son mari, qui ne l'était que par défaut, lorsque celui-ci lui envoie une grosse baffe, car c'est bien connu, les femmes adorent ça. Et bien évidemment, Mélanie Laurent finit par trouver un certain charme au personnage de Dujardin, qui pourtant la maltraite et l'humilie. Et comme on s'en doute, eh bien, tout est bien qui finit bien entre deux.
Et on va écouter eh bien, ces deux-là, Mélanie Laurent et Jean Dujardin dans Cinérama.
Ce film ressemble effectivement au film du dimanche soir. On fait aussi, comme Laurent d'ailleurs, on fait aussi des films qu'on a envie de voir. Lui en tant que réalisateur et moi en tant qu'acteur. Et j'ai le sentiment que là, de toutes les villes qu'on a rencontrées, tous les journalistes, même nous l'ont dit volontiers en tout cas, c'était un plaisir de retrouver une comédie comme ça. Voilà, il y en avait peu. Donc j'espère que ça marchera aussi pour ça, que ça fera des petits.
C'est chez vos larmes, Pauline. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Et nous serons rentrés en Orient.
Vous m'écrirez ?
Tous les jours, je vous le promets.
N'écris pas.
C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Il y a 3 ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée, mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré.
Je la rassure sur le champ.
Non, vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai fait.
Foot.
Mais attention, Neuville, vous êtes mort en héros.
Ce serait dommage de tout gâcher, non ?
Ah oui.
Non, mais en fait, on n'avait pas tellement ni d'obsession de vouloir faire ce qui avait déjà été fait. C'est juste qu'on a lu le scénario et qu'on a eu ce ressenti de « Oh, j'ai l'impression de lire Les Mariés de l'an 2 parce que ce film a bercé mon enfance. » C'est marrant, on fait toute cette promo et tout le monde, beaucoup de diagents vous faites du Belmondo, c'est drôle, parce que pour moi, c'est... il est tellement singulier, cet acteur. C'est marrant que tout le monde revienne aux mêmes choses, en fait.
Neuville, il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fous, c'est ça, vous avez perdu la raison?
Nous voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là...
La
cavalerie est arrivée.
C'est ça, la chute? Bah, c'est nul.
Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas.
Je ne crois pas complètement à ce que je fais tout le temps. Tout ça n'est quand même pas super grave non plus, le cinéma. Il y a une envie de jouer un peu, d'avoir un jeu dans le jeu, quoi. Alors là, pour le coup, encore plus avec ce principe-là d'usurpation. On ne joue jamais le costume. Et d'ailleurs, je pense que le costume, on l'oublie assez rapidement dans le film.
Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. C'est le diable ! Il va nous déshonorer !
À la chienne ! C'est toujours une promesse, en fait, un film, déjà. Mais alors, une comédie, là, lundi 12, là, tu vas faire rire. Mardi 13, il faut faire rire. Il faut faire rire. Il y a des jours où tu n'as pas du tout envie de rire. Tu ne sais même pas comment faire rire. Alors, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait effectivement avec les bons partenaires. Mais ça, si on s'arrête sur cette pression-là, c'est effrayant. Ça peut être effrayant. Donc, je pense qu'il faut se dégager de plein de choses. Il faut être très, très, très juvénile et s'amuser avec des conneries. S'il y a des fous rires qui nous traversent, il faut les prendre bien volontiers. Ça veut dire qu'on est bien sur un plateau. Mais j'y pense pas trop, je l'évacue assez rapidement. Puis surtout, c'est que j'essaie de travailler énormément avant. C'est-à-dire que je bosse énormément le texte pour pouvoir m'en libérer. C'est pas sur le plateau qu'on cherche, en fait. Moi, je pense qu'on arrive avec... c'est un truc un peu français, mais elle pourra en parler aussi, mais les anglo-saxons travaillent moins comme ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'acteur fait ses devoirs chez lui, qu'il travaille avec son personnage, et que, de toute façon, le metteur en scène acceptera... la proposition de l'acteur. Là, c'était un peu le cas. Laurent nous a... on était dans des réglages, mais chacun ressemblait à son personnage, donc on a pu vraiment y aller, quoi.
Eh bien, mais comment avez-vous survécu? Votre dernière lettre faisait tout de même état d'une situation désespérée.
Oh oui, racontez-nous. Racontez-nous comment vous êtes sortis de cette impasse, dans ce fortin, avec cette poignée d'hommes et ces 2000 Anglais qui vous encerclaient.
Oui.
Nous brûlons d'envie d'entendre les moindres détails.
Malheureusement, les détails se sont un peu effacés. J'ai perdu une partie de ma mémoire suite à une blessure à la tête.
Où ça?
À la tête.
Où ça, à la tête?
Eh bien, vous voyez, justement, même ça, je m'en souviens plus.
Non, parce que les gens veulent pas. On est obligé de trouver des éléments de langage pour essayer de dire aux financiers... Attendez, c'est pas un film en costume, c'est une comédie costumée. Mais parce que moi, je suis aussi spectateur comme vous, hein. Je suis spectateur du cinéma. Et des fois, je me dis... Pff, mais ça, je l'ai vu dans l'autre film. Et ça, cette scène-là, on pourrait la écrire aussi dans l'autre... Et au SS, par exemple, c'était pas gagné du tout, au début. Pas du tout, du tout. Ça devient maintenant un truc, machin, mais pas du tout, du tout.
C'est qu'on
prend un peu parfois les gens pour les cons en pensant qu'ils vont pouvoir bouffer ça. Alors ils vont le consommer et je pense que le cinéma ne se consomme pas. Pas comme la télé.
Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil.
Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neuville.
Vous l'avez entendu, hein, Jean Dujardin, lors de cette conférence de presse, eh bien, avait sorti les gros arguments. Hein, vu ce qu'il fait, c'est pas de la télévision. Donc, c'est le retour du héros dans les salles depuis le 14 février. On va maintenant écouter une chronique qui va être intéressante. C'est un film qui fait une ressortie, un film des années 80.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors, c'était sûrement une comédie.
Hear the music of the children in the moon rise. Feel the power of the fire. The cat's got a little extra.
Comment visionner Roar sans ne pas penser aux conditions de tournage périlleuses et impossibles à envisager aujourd'hui, hein, le film datant de 81. Alors un pari quasi suicidaire, hein, celui de Noël Marshall et sa famille, soit réaliser une sorte de docu-fiction dans son ranch entouré de fauves apprivoisés mais non dressés, tigres, lions, panthères, guépards et puis aussi quelques éléphants étant donné que l'action est censée se situer en Afrique. Alors un carton indique au départ qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Alors ce qui ne fait aucun doute, mais cette phrase n'est pas dénuée d'ironie, ou alors ils n'ont pas fait exprès, parce que plus de 70 comédiens et techniciens, à commencer par Marshall lui-même, ont été blessés, griffés, mordus, scalpés lors d'un tournage plutôt dangereux étalé sur 5 ans. Alors doté d'un budget colossal, enfin pour l'époque, de 17 millions de dollars, et encore sans y inclure tout le travail de préparation en amont et l'investissement personnel de Tippi Hedren à leur compagne de Marshall, Roar a été vendu dans le monde comme une production familiale estampillée Disney à la manière des classiques du genre Vivre libre de James Hill. Alors fatal erreur, un roi fut un bid pharaonique ne rapportant pas plus de 2 millions de dollars. Le côté entreprise familiale n'est pas absent, il est même au cœur du sujet, puisqu'outre Tippi Hedren, on retrouve la fille de cette dernière, Melanie Griffith, toute jeune, ainsi que les deux fils du cinéaste, John et Jerry. Alors ce pseudo-documentaire sur le comportement des fauves part d'un postulat assez manipulateur. Alors censé se passer en Tanzanie, tout le métrage a été en réalité tourné en Californie, hormis quelques plans touristiques venus d'Afrique. Ensuite, le genre dans lequel il s'inscrit est pour le moins flou, hybride, entre la fable burlesque sur le chaos, le film d'horreur expérimental et le vague film hédoniste hippie sur la sauvagerie des félins. Alors Roar ne cesse d'étonner, de surprendre, de nous mettre dans des états contradictoires entre euphorie, amusement, consternation et terreur. L'arrivée de la famille dans le ranch rempli de ces bêtes imposantes va provoquer catastrophe sur catastrophe, destruction en règle du matériel environnant. Alors tout l'intérieur va être saccagé, déchiré, détruit, dans un grand moment de folie visuelle et narrative, rappelant à certains moments le cinéma burlesque le plus transgressif à la Black Edwards. Bizarrement, moi j'ai pensé un peu à la partie. Alors voir Tippi Hedren, Melanie Griffith et les deux jeunes Marshall en panique devant les fauves, alors qui sont pas spécialement agressifs, mais effrayants par leur simple présence physique, impressionnent tout au long de cette sorte de home invasion unique dans l'histoire du cinéma. Alors tout a été réalisé sans trucage, hein, jusque dans la mise en scène frontale qui va à l'encontre, on va dire, des films d'épouvante classiques mettant en scène des animaux. En effet, sur ce plan, Roar ne triche pas. Il montre constamment la promiscuité des humains et des animaux qui sont filmés comme ça dans la continuité, en plan séquence ou à l'intérieur du plan. Il n'y a quasiment pas de plan de coupe, comme dans beaucoup d'œuvres mettant en scène des animaux sauvages. Les personnages cohabitent physiquement avec les prédateurs, hein, ils les touchent, les repoussent, les caressent, les évitent au sein d'une course-poursuite frénétique et épuisante. Et c'est assez impressionnant, hein, on est toujours entre froid et admiration. Alors il faut aussi rendre justice à l'incroyable travail visuel de Jean Debon, chef-op génial qui accomplit des merveilles. La caméra très mobile capte au plus près les réactions et les mouvements de cette faune impressionnante. C'est le futur réalisateur de Speed.
Il est resté vivant après.
Voilà, il est resté vivant, oui. Et chef-op de Verhoeven aussi. Hein. Mais il fut scalpé par un lion, en fait. Il y avait une photo, je ne sais plus dans quel journal, mais
plus de cheveux.
Alors, mais le plus fascinant dans cette sorte de mondo domestique reste la personnalité du cinéaste Noël Marshall qui interprète quasiment son propre rôle, une sorte de doudingue hippie en surchauffe constante. Alors cet illuminé, bercé de l'utopie hédoniste de la cohabitation entre félins et humains, n'est pas loin de la folie et rappelle un autre dingo, Timothy Treadwell, auquel Herzog lui avait consacré un docu pour son passionnant Grizzly Man. Alors Treadwell vivait au milieu des ours sans prendre conscience du danger jusqu'au jour où il a fini par se faire bouffer parce qu'il considérait comme ses semblables. Bon. Alors Marshall, il en est proche, il considère tous ses félins comme ses amis, il discute avec eux, joue avec, il dort avec aussi. Et nous spectateurs, on regarde ce trip halluciné avec les yeux écarquillés, se demandant souvent quelle est la part de réel et de fiction. Alors une expérience unique, hein, que le happy end rousseauiste. Oui, alors on voit les félins attablés avec les humains dans la joie et la bonne humeur sur un coucher de soleil avec la musique qu'on a entendue au début de la chronique. Bref, alors tout ça n'arrive pas à ternir c'est un film quand même assez impressionnant. Hein. Alors il ne s'agit pas, on va dire, il y avait une expression qui parlait des films malades. Là, je dirais plutôt que c'est un film de malades, en fait. C'est assez unique.
C'est vrai. C'est, en regardant juste la bande-annonce, je pense que ça pourrait vous donner aussi envie d'aller le regarder. Et certains cinémas ont décidé de le ressortir.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre ?
Alors, pour ceux qui avaient bien suivi l'épisode dans Captain America Civil War, le prince T'Challa, eh bien, alias Black Panther, doit succéder à son père assassiné par un terroriste international. Pour cela, il est indispensable de rejoindre Wakanda, une contrée paradoxale, hein, car elle est connue pour être un pays paisible du tiers-monde peuplé d'habitants noirs, alors qu'il s'agit d'une nation certes alors paisible, mais très en avance technologiquement. En résumé, ils savent faire beaucoup de choses, fabriquer des vaisseaux que les autres habitants de la Terre sont seulement capables de voir dans les films, régénérer des tissus humains au besoin, quand on reçoit une lance, hein, par exemple dans le dos. Et il pourrait, s'il en vit, leur en prenait aussi, terrasser n'importe quelle armée sur la planète. Alors Wakanda tient sa force de son isolement. S'il y a quelques luttes de pouvoir à l'intérieur du pays, ce n'est rien à côté de ce qui attend le nouveau roi T'Challa, qui va devoir débarquer un prétendant au trône souhaitant armer tous ses frères opprimés. Deux visions du pouvoir s'opposent donc, et si on attend d'un Marvel des super-héros et des bonnes bastons, ce Black Panther est un peu à part. Hein. Non pas pour les bastons, car il y en a, mais pour le super-héros. Certes, T'Challa, investi du pouvoir des anciens, est puissant, mais en face de lui, il n'a pas grand monde de toute façon. Black Panther est presque une fable politique. On y trouve des conflits moraux, des alliances, des trahisons, deux visions antagonistes, activisme et isolationnisme. Ryan Coogler parvient à hisser le divertissement dans une veine plus détendue et responsable que les autres Marvel, je trouve. Le placardage d'une esthétique fantasy avec une tonalité à leur afrotech pourra peut-être en rebuter certains, mais le monde de Wakanda a d'autres intérêts. Alors non seulement on n'y trouve que des noirs, mais la présence féminine est également prépondérante. Alors que je sache, on ne leur reconnaît pas encore le droit de régner, mais elles peuvent être générales des armées, orienter la technologie de la nation tout entière et également être écoutées en tant que stratèges. Si le plus fort du combat concernera deux hommes, il n'empêche que les femmes sont représentées et pas seulement là comme des faire-valoir. Avec tout ça, Black Panther n'est pas grave ni garni de répliques qui tombent à plat. Si le questionnement du roi est sérieux, les autres personnages autour de lui sont plutôt bout en train, y compris les méchants qui ne sont pas sans intérêt. Black Panther fait son job. On en oublie presque que c'est un Marvel.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Vous pouvez pas contrôler qui est qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On quitte deux acteurs bankable français pour la semaine prochaine. Écoutez, Gilles Perret, c'est le réalisateur de L'Insoumis, un film sur Jean-Luc Mélenchon qui est déprogrammé dans certaines salles. Donc film polémique, on l'écoutera au micro de Cinérama.